Portez-vous bien.
Il est 21h30 à Khartoum, une heure de moins à Paris, 19h30 temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Kouadio.
Bonsoir à toutes et à tous. L'armée soudanaise poursuit sa progression à Khartoum. Elle affirme avoir repris ce samedi plusieurs bâtiments du centre de la capitale, notamment la Banque centrale et le Musée national. La veille, elle avait repris le contrôle du palais présidentiel. Nous reviendrons aussi sur l'attaque perpétrée vendredi dans le sud-ouest du Niger. Des djihadistes ont encerclé un village avant d'ouvrir le feu. Bilan, plus de 40 civils tués. Les autorités de transition parlent d'un massacre d'une rare cruauté. Elles ont décrété 3 jours de deuil national. Les régions nord des pays côtiers sont également confrontées à la menace terroriste qui déborde du Sahel. Ce sont les conclusions d'un rapport publié par la fondation Konrad Adenauer. Le document confirme l'avancée des groupes djihadistes au Bénin et au Togo. Et puis en République démocratique du Congo, les combattants de la FCM-23 annoncent leur retrait de Walikale Centre dans le Nord Kivu. Mercredi, ils en avaient pris le contrôle. Ils se retirent pour, disent-ils, favoriser un climat propice au dialogue, conformément à un cessez-le-feu unilatéral proclamé fin février. Au lendemain de la reprise du palais présidentiel de Khartoum, l'armée soudanaise a donc poursuivi sa progression dans la capitale ce samedi. Plusieurs autres bâtiments symboliques, dont la Banque centrale et le Musée national, ont été repris par les troupes du général Al-Burhan. Dans le même temps, au Darfour, au moins 45 civils auraient été tués dans une attaque menée par les paramilitaires. On fait le point avec François Mazé.
Les succès symboliques s'enchaînent pour le général Al-Burhan dans la capitale, dévastée par 2 années d'un conflit civil si brutal qu'on ne peut en estimer précisément les pertes humaines. Ce samedi, le porte-parole de l'armée nationale, le général Nabil Abdullah, a annoncé dans un communiqué des progrès ayant mené durant la nuit à la reprise de plusieurs bâtiments de Khartoum, dont la Banque du Soudan, le siège des services de renseignement et le Musée national. Ces prises font suite à celles du palais présidentiel, officialisées la veille et accompagnées comme à chaque fois de vidéos triomphante diffusée sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, l'armée nationale a pris un ascendant très clair dans la capitale, mais plusieurs quartiers restent entre les mains des FSR de son rival, le général Emeti. Dans le même temps, des combats se poursuivent également au Darfour. Selon des acteurs de la société civile, au moins 45 personnes ont été tuées jeudi lors d'une attaque des paramilitaires contre la ville d'Almala, au nord Darfour. Les paramilitaires qui avaient affirmé avoir encerclé et pris cette ville, faisant plus de 380 morts ennemis.
François Mazet. Au Niger, 44 civils tués ce vendredi par des éléments d'un groupe armé dans la région de Tillaberi. Bilan annoncé par les autorités. L'attaque, visiblement une opération de représailles, s'est déroulée au moment de la grande prière. Les djihadistes ont encerclé la mosquée du village de Fambita avant d'ouvrir le feu. Les attaques sont quasi quotidiennes dans cette zone dite des trois frontières, où l'armée du Niger a multiplié ces derniers jours des opérations contre des éléments de l'EIS, l'État islamique au Sahel. Précision, Guillaume Thibault.
Dans le communiqué diffusé à la télévision nationale, les autorités militaires parlent d'un massacre d'une rare cruauté mené par l'État islamique au Sahel, puis indiquent « ces crimes crapuleux ne resteront pas impunis, les auteurs seront traqués ». Ce samedi, lors d'un point presse à Niamey, Amadou Haruna Maïga, le coordinateur de l'Union nationale pour la sécurité, la paix et la cohésion sociale, a rendu hommage aux victimes et appelé toutes les forces vives du Niger à lutter contre les groupes armés. Trop c'est trop, il faut arrêter cette descente aux enfers. Nous apportons notre soutien à l'État, aux forces de défense et de sécurité pour soulager la souffrance des populations, a indiqué Amadou Haruna Maïga, qui estime que cette attaque de la mosquée est une vengeance des groupes djihadistes suite aux missions menées il y a 8 jours par l'armée lors de 2 opérations distinctes dans cette zone nord-ouest. L'armée a indiqué avoir neutralisé 90 djihadistes. 9 soldats ont été tués durant ces combats. Suite à l'attaque de Fambita, les autorités militaires ont décrété 3 jours de deuil national.
Guillaume Thibault. Et puis des hommes armés ont attaqué vendredi soir le pipeline qui achemine le brut nigérien vers le port de Cotonou au Bénin. L'infrastructure a été sabotée à proximité du village de Mounseka, près de la frontière avec le Nigeria voisin. Le gigantesque brasier filmé par des villageois paniqués circule en boucle sur les réseaux sociaux. Ce sabotage intervient une semaine après l'expulsion de 3 directeurs de grandes sociétés chinoises qui travaillent dans l'exploitation du pétrole. La situation sécuritaire dans l'extrême nord du Togo, au cœur d'un rapport publié par la fondation Konrad Adenauer, rapport qui se penche aussi sur le sujet côté béninois. Depuis plusieurs années, les régions nord des pays côtiers sont confrontées à la menace terroriste qui déborde donc du Sahel. L'avancée des groupes djihadistes au Bénin et au Togo est claire, affirme le rapport. Dans la région togolaise des Savanes, région frontalière du Burkina Faso, la première attaque terroriste a été enregistrée en mai 2022. Depuis, l'insécurité continue avec des conséquences sur les populations locales et leurs activités. Les prix montent sur les marchés alors que les opportunités professionnelles diminuent. C'est notamment ce que nous explique Mathias Kalfaoui, consultant indépendant et auteur du rapport.
La préfecture en fait qui est la plus touchée par l'insécurité au Togo, c'est la préfecture du Pendjal. C'est celle qui a été connue comme étant le grenier des savanes. Donc c'est pas seulement des gens qui perdent leur emploi parce qu'ils ne peuvent plus y aller pour faire leurs activités, c'est aussi forcément une montée des prix parce que les denrées ne sont plus produites localement. Il y a d'autres sujets, par exemple, il y a le fait que pendant très longtemps, la plupart des personnes dans les savanes utilisaient de l'essence qui était de l'essence frelatée, qui venait du Bénin en général. Et ça a donné beaucoup d'emplois, par exemple, à la jeunesse. Beaucoup étaient transporteurs de ces bidons d'essence frelatée. Et ça, forcément, les autorités y ont mis fin parce que c'était de l'essence qui, par exemple, revenait aux groupes djihadistes. Et le troisième point où, là aussi, les populations sont touchées dans les savanes, c'était le fait que l'une de ces richesses, c'était son point d'entrée qui s'appelle Saint-Cassé entre le Burkina et le Togo. Et il y avait tout un ensemble d'opportunités professionnelles par rapport à ce point d'entrée qui sont notamment le fait d'être un transporteur. Et ça, pareil, c'est un axe qui, aujourd'hui, du côté burkinabé, est fortement insécurisé. Mais du coup, à certains moments, il est tout simplement pas possible pour les gens de faire les échanges commerciaux qu'ils avaient l'habitude de faire.
Un propos recueilli par Magali Lagrange. En République démocratique du Congo, les rebelles de l'AFC M23 annoncent s'être retirés ce samedi de Walikale Centre dans le Nord Kivu. Les rebelles évoquent une volonté de favoriser un climat propice au dialogue dans le cadre du cessez-le-feu unilatéral qu'ils disent respecter depuis fin février. Mais sur le terrain, ce retrait est confus et la situation reste tendue ce soir. Le récit de Patient Nigodi.
Des détonations ont été signalées pendant une grande partie de la journée à Walikale Centre, selon plusieurs habitants, joints ces samedis. Dans cette atmosphère tendue, de nombreux habitants sont restés cloîtrés chez eux. Ceux qui ont osé sortir en début de soirée affirment avoir vu des combattants circuler dans les rues. Jusqu'à ce soir, des éléments de la FCM-23 étaient encore visibles dans certains quartiers. L'armée congolaise a de nouveau fait voler son aviation au-dessus de la cité. Des sources locales indiquent que l'aérodrome semblait être la cible. Et les groupes armés locaux qui soutiennent les forces armées congolaises, les Wazalendo, sont signalés à environ 10 km de Walikale Centre. Malgré ces tensions, la FCM-23 affirme qu'il se retire pour donner une chance aux pourparlers de paix. Mais du côté des forces congolaises, on doute de cette déclaration. Des sources militaires affirment que les rebelles n'ont pas l'intention de quitter la zone et soupçonnent une manœuvre visant à préparer une avancée vers Kisangani, située à environ 400 km.
Passion Ligaudi. Et puis la disparition d'une légende du noble art. Le boxeur américain, ancien champion du monde, George Foreman, est mort samedi à Houston, au Texas. Il avait 76 ans. Il a livré au long de sa carrière 81 combats professionnels avec 76 victoires, dont 68 par KO. Et parmi ces quelques défaites, l'une est entrée dans l'histoire. C'était le combat contre Mohamed Ali en 1974 à Kinshasa, le mythique Rumble in Jungle, qui avait réuni 100 000 spectateurs. Beaucoup sur place s'en rappellent encore, comme a pu le constater Olga Massangou dans la capitale congolaise.
Avec le décès de Foreman, c'est la dernière lampe du Rumble in the Jungle qui s'éteint. Ce combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman avait réuni 100 000 personnes en 1974 au mythique Stade Tata Raphaël de Kinshasa. Dieudonné Ngalula, à l'époque élève, se souvient de quelques séances d'entraînement de Foreman dans les rues de Kinshasa.
Je me souviens que George Foreman, de temps en temps, il venait s'entraîner. On pouvait le surprendre s'entraîner avant que nous n'entrions dans la classe le matin. Autour du terrain de l'Athénée de la Gombe.
Pour la circonstance, Kinshasa était devenue la capitale de la boxe et Toussaint Lofanga, entraîneur de l'équipe nationale de boxe de la RDC, garde bien une anecdote sur ce qui a fait perdre les géants Foreman.
En 1974, au moment du combat, j'étais trop jeune, je n'avais que 5 ans et c'est mon coach à l'époque qui m'a expliqué pourquoi Foreman avait perdu son combat. À son arrivée à Kinshasa, il avait dit « Je viens découvrir l'Afrique », alors que quand Mohamed Ali est arrivé, il a dit lui « Je suis ici chez moi.
George Foreman s'en va après Mohamed Ali en 2016 et amène avec lui le dernier souvenir du combat du siècle qui restera parmi les plus grands événements sportifs organisés en Afrique. Olga Massangui Kinshasa, RFI.
Et puis autre décès dans le monde du sport, celui de Djamel Ménad, ancien attaquant de l'équipe de football d'Algérie et du club de la JS Kabylie. Il avait 64 ans. Il est 20h40 à Paris. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale.